Bienvenue sur Vers ma vie, votre émission bien-être en podcast. Si vous pensez que vous avez tout pour être heureuse mais que le moral ne suit pas, si vos douleurs au ventre vous empêchent de bouger, de vous régaler comme vous le souhaiteriez, si vous aimeriez profiter de la vie que vous avez construite et vous accepter enfin tel que vous êtes, dans le corps et la tête que vous avez, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Alice, je suis coach bien-être certifiée et je peux vous aider à donner du sens à votre vie, à vous libérer de vos maux et à briller dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Vers ma vie, votre podcast bien-être. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Personnellement, j'ai beaucoup râlé à propos de la météo et de la chute des températures, du vent qui s'engouffre sous les portes et de la pluie qui lèche les fenêtres. Chaque année, c'est la même chose. Quand l'automne arrive, je n'ai pas assez de 4 couches de vêtements, d'un thé fumant à portée de main et d'un feu crépitant pour me sentir au chaud. Et lorsque ces conditions ne sont pas réunies, je grelotte et je me plains. Bientôt, nous allons reculer nos montres et une fois de plus, je vais pester contre la nuit qui arrive trop vite. Preuve que j'ai bel et bien du sang français qui coule dans mes veines. Car il paraît que les Français sont les champions du monde pour râler. Le président de la République lui-même a lâché en 2008 que le pays se porterait autrement si les Français se plaignaient moins, créant ainsi une polémique. Pourtant, selon une étude Opinionway pour la MAF et Métro en 2010, 93% des Français reconnaissent râler souvent, voire très souvent. D'ailleurs, les Français sont réputés à travers le monde pour être de grands râleurs. Près d'un Français sur 4 considère que râler est dans son tempérament et près d'un Français sur 3 se justifie en disant que cela lui fait du bien, que cela le détend. Les principales cibles d'énervement sont l'administration, les transports, la politique, le coût de la vie et les conjoints. Si on reprend notre modèle de coaching SPEAR, ESPER, dans lequel une situation entraîne des pensées, desquelles découlent des émotions, puis des actions. Râler entre dans quelle catégorie d'après vous? Pensée, émotion ou action? Yes, vous avez raison. Râler est bel et bien une action que l'on entreprend. Et comme toute action, râler provient d'une émotion que l'on a ressentie à propos d'une pensée que l'on a émise face à une situation qui vraisemblablement ne nous a pas convenu. Alors pour ce qui est du modèle de coaching dont je vous parle, je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast. Donc là, on va prendre un exemple. Une situation qui m'est arrivée plusieurs fois. Peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. La petite dame au supermarché qui sort toutes ses pièces pour payer, qui finalement n'a pas le montant nécessaire et qui cherche son chéquier dans son sac pour régler ses courses. Ma pensée. Je vais être en retard pour aller chercher les enfants à l'école. Mon émotion. L'impatience. Mon action. Je râle, ouvertement ou en silence. Oh, c'est toujours pareil, je choisis la mauvaise caisse et je tombe derrière la personne qui n'a pas anticipé le moment de payer. Les gens sont pas doués ou quoi? Et patati, et patata. Le résultat, je me mets dans tous mes états et je me mets effectivement en retard car plutôt que de changer de caisse par exemple, eh ben je râle. C'est que râler nous semble parfois être l'option la plus bénéfique pour nous. Cette action nous donne le sentiment de faire quelque chose de productif dans une situation dans laquelle on s'estime impuissant, une situation qu'on ne contrôle pas. Coincé dans les bouchons, je râle. Sous la pluie, sans parapluie, je râle. Mon train a du retard, je râle. L'école fait grève aujourd'hui, je râle. Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, je râle. Comme une manière de libérer de la frustration pour ne pas craquer. Qui n'a pas créé du lien avec un collègue ou un ami en se plaignant d'une situation commune, comme une réunion beaucoup trop longue ou un plat franchement mauvais au restaurant? Se plaindre en groupe permettrait aux individus de se rapprocher, de se sentir compris. Selon une théorie avancée par des chercheurs de l'université de Jena en Allemagne, manifester son mécontentement serait une manière d'extérioriser ses sentiments et ainsi de libérer du stress, nous permettant de vivre plus longtemps. Lorsque je travaillais dans la restauration, j'avais l'habitude de pratiquer le small talk, comme le nomment mes acolytes anglophones, ou l'art d'échanger des banalités. Vous savez, ces genres de conversations passe-partout que l'on dégaine face à des inconnus lors d'une soirée, chez le boulanger, dans les transports ou à la sortie de l'école. Ou encore de petites discussions autour de la machine à café ou à la cantine avec ses collègues ou au téléphone le dimanche après-midi avec sa grand-mère. Et l'une des manières les plus simples de rentrer en conversation avec un client, c'était souvent pour moi de râler au sujet de la température extérieure, des impôts ou de la hausse du prix de l'essence ou des transports en commun. Je me suis rappelé de ça l'autre matin alors que je prenais mon café dans la salle d'une brasserie. La personne qui était d'ouverture ce jour-là faisait des allées et venues entre la cuisine et le bar, préparant tantôt les sandwichs, tantôt les cafés d'élèves tôt comme moi. Chaque personne qui poussait les portes de la chaîne de restaurants se voyait servir une litanie de propos négatifs par l'employé, qui visiblement n'avait hâte que d'une chose, partir en vacances. Lorsqu'il retournait à la cuisine, il soufflait et maugréait que les gens l'agaçaient. Il ne voyait pas que sa propre négativité entraînait une série de conversations négatives, et donc encore plus de négativité. Mais pour lui, comme pour les clients, parler de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va n'avait rien d'anormal. Au contraire, le barista obtenait un peu de compassion et le consommateur était à l'aise avec une forme de communication dont il connaît le fonctionnement. Après tout, pester contre un ennemi commun, Trump, la Covid, la pluie, pour ne citer qu'eux, est facile. Ce qui me dérange de plus en plus cependant, c'est toute la négativité qui englobe l'irritation ouvertement partagée. Lorsqu'on reprend notre modèle SPER, S-P-E-R, on s'aperçoit qu'après l'action, arrive le résultat. Quand je pense que les raviolis de la cantine sont infâmes, que je suis remontée et que je râle auprès de mes collègues, quel résultat est-ce que j'obtiens ? Est-ce que ce résultat me convient ? Il est important de se poser la question. Car généralement, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, c'est qu'on n'aime pas le résultat entraîné par ses actions, ses émotions et ses pensées. Le résultat découle de nos pensées. Nos pensées engendrent nos résultats. Et nos résultats nous conviennent ou non. Peut-être que dans une situation particulière, râler va créer un résultat qui vous sert, comme transformer l'expérience des raviolis dégoûtants en moment de partage avec les collègues. Mais peut-être que râler va ne faire qu'accroître votre mauvaise humeur et venir ternir le reste de votre journée. On ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème, chantait Charles Aznavour en 1965 en évoquant les regrets. Il en va de même avec le fait de râler. Le problème quand on se focalise sur ce qui ne va pas, c'est qu'on oublie tout le reste. On cède à la tentation naturelle de notre cerveau à se pencher sur ce qui ne nous convient pas. On ramène à la surface ce que l'on ne souhaite pourtant pas dans sa vie. On ne voit pas le rayon de soleil derrière le nuage gris ou la légère brise qui rend la chaleur supportable. C'est pourquoi, régulièrement, je me mets au régime. Alors pas au régime pour perdre du poids, hein, parce que, à part faire grossir le portefeuille de l'industrie de la beauté et celui des médicaments, il ne sert, d'après moi, pas à grand-chose. Non, au régime, j'arrête de râler. Il consiste à repérer les moments où j'ai envie de me plaindre à haute voix et à me stopper dans mon élan. L'idée est de ne pas râler du tout dans la journée. Bon, ça, j'y suis encore jamais arrivée. Et croyez-moi, il s'agit d'un des régimes les plus difficiles que j'ai jamais entrepris. Il s'agit aussi du seul qui m'a été réellement bénéfique. Lorsque je sens monter en moi la négativité, je me challenge de la sorte. Je reconnais la pensée qui a déclenché mon besoin de me plaindre et je la contrebalance avec un temps de parole positif. Je cherche un angle différent, une autre façon d'aborder la situation que je suis en train de vivre et qui ne me convient pas. Alors l'idée, ce n'est pas de rejoindre le monde des bisounours et de ne pas prendre en considération mes émotions, seulement de m'interroger sur une éventuelle possibilité de considérer la réalité autrement. Exemple. Mon fils réclame un verre d'eau et verse son contenu dans son assiette encore pleine. Ma pensée première, que je remarque seulement après avoir noté mon envie de râler dans la seconde, même si c'est elle qui est à l'origine de mon émotion et de mon action, est « c'est pas possible, il faut toujours qu'il complique les repas. Je relève cette pensée et l'émotion qui l'accompagne, qui était ce jour-là de l'exaspération. Je me donne de la compassion, j'accueille mes sentiments. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière dans laquelle il était question des émotions, justement. Puis je me demande si je peux accompagner cette pensée d'une autre pensée, que je peux croire également. L'idée n'étant pas de basculer vers quelque chose de type « c'est merveilleux, mon enfant est plein d'idées originales », puisque sur le moment, je n'y crois pas. Mais plutôt une phrase douce comme « peut-être a-t-il besoin de vérifier quelque chose à ce moment-là » qui génère de la curiosité en moi et me pousse à lui demander « tu as vu un copain faire ça à la crèche aujourd'hui ?» puis de lui rappeler le cadre des repas et pourquoi on ne verse pas d'eau dans son assiette. Une conversation bien plus utile que « quel petit cochon, il faut toujours que tu en mettes partout » et qui nous mène à un cul-de-sac. Vous voyez où je veux en venir ? Si râler apporte un soulagement immédiat en libérant une certaine tension, si râler nous permet de connecter rapidement avec notre entourage, si râler renforce notre identité en tant que peuple qui ne se laisse pas faire, le résultat qui découle de cette action n'amorce que rarement un résultat en notre faveur. La prochaine fois que vous aurez envie de râler, demandez-vous comment vous pouvez changer de regard sur la situation que vous êtes en train de vivre. Cette simple décision peut à elle seule modifier le cours de votre journée et peut-être celui de votre vie. Merci pour votre écoute. Bonne semaine. À bientôt. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, @auvertaveclily tout attaché, ainsi que sur mon site internet auvertaveclily.fr. Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. À bientôt!